Démarrons cette nouvelle immersion au cœur de l'information. L'énergie est vraiment au rendez-vous aujourd'hui, car la mission de notre session d'analyse consiste à décortiquer une pile assez impressionnante d'articles récents.
Ah oui, une pile particulièrement dense pour le coup.
Exactement. Tous ces articles sont minutieusement compilés à partir du magazine Logi iWeek. Il s'agit très exactement de l'édition de mars 2026, le numéro 120. Et l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui est tout simplement fascinant.
C'est le moins qu'on puisse dire, en fait.
Il s'agit de comprendre comment les plaques tectoniques du monde moderne basculent sous nos yeux. Souvent de manière complètement invisible. D'un côté, on va analyser un véritable séisme géopolitique au Moyen-Orient.
Un événement qui redéfinit vraiment la nature même de la guerre moderne.
C'est ça, une guerre redéfinie grâce à l'hypertechnologie et à la donnée. Et de l'autre côté, on va observer une approche diamétralement opposée. La gestion pragmatique des crises et la préparation méthodique de l'avenir politique et technologique au Maroc. Je suis vraiment ravie de me plonger là-dedans avec toi.
Pareil, je suis prêt. Disons que c'est une session qui promet d'être particulièrement riche en contraste. Le décalage entre ces différentes réalités est tout bonnement saisissant.
C'est le grand écart.
Absolument. Le but, aujourd'hui, c'est de relier ces faits qui semblent, à première vue, totalement disparates. Il s'agit de comprendre les véritables dynamiques du pouvoir, de l'infrastructure et de la résilience à notre époque.
Il faut prendre du recul, c'est ça.
Voilà. Il est devenu crucial de prendre un peu de hauteur. De s'éloigner du bruit constant et de la surcharge d'informations qu'on subit au quotidien pour vraiment discerner les lames de fond qui transforment nos sociétés.
Et le décor planté par l'actualité semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction dystopique. En lisant les sources de notre exploration, on y découvre des rumeurs impliquant des chapelets électroniques potentiellement explosifs.
Rien que ça.
Oui, l'idée vertigineuse d'une métropole entière transformée en une immense base de données mortelle pour ses propres dirigeants et, en parallèle, un classement mondial qui place le Maroc au tout premier rang pour l'immunité de sa population.
Un programme très chargé.
D'accord. Décortiquons tout cela en commençant par le dossier qui est en train de bouleverser l'échiquier mondial. Le fait majeur rapporté par le magazine nous ramène à une date qui fera date dans les livres d'histoire, le 28 février 2026.
Oui. C'est clairement une date charnière, une rupture historique.
Ce jour-là, selon les rapports, une frappe attribuée conjointement à Israël et aux États-Unis a tué l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, depuis près de 37 ans.
37 ans au pouvoir, c'est immense.
Et il n'y a pas que lui. 40 hauts responsables militaires ont également péri lors de cet événement. Et le détail qui frappe, c'est le lieu. Cela s'est passé
en plein cœur de Téhéran.
Exactement, lors d'une réunion présentée comme exceptionnelle dans un complexe ultra sécurisé de la rue Pasteur. On n'est pas sur un champ de bataille traditionnel perdu dans le désert, on est au cœur de la capitale.
C'est un événement d'une ampleur sismique. La disparition d'un dirigeant de ce niveau, surtout après presque 4 décennies au pouvoir, c'est jamais un simple fait d'arme tactique. C'est une reconfiguration géopolitique totale.
C'est un changement de paradigme.
Totalement. Mais ce que les révélations de la presse internationale mettent en lumière, et qui est remarquablement synthétisé dans notre dossier, c'est qu'il ne s'agit absolument pas d'une décision improvisée.
C'est pas une simple frappe d'opportunité de dernière minute.
Pas du tout. C'est l'aboutissement d'une infiltration d'une patience stratégique inouïe. Une opération qui remonte à plus de 25 ans.
25 ans ? Mais c'est le temps d'une génération entière.
Bah oui, c'est ça qui est fascinant. Il faut remonter au début des années 2000. À l'époque, sous l'impulsion du premier ministre israélien Ariel Sharon, le Mossad a fait de l'Iran sa priorité absolue.
Et ils ont changé de méthode, c'est bien ça?
Exactement. La doctrine a changé. La stratégie ne reposait plus uniquement sur l'espionnage traditionnel, tu sais, avec des agents infiltrés physiquement sur le terrain, dans les ministères.
Les fameux espions en imperméable.
Voilà, c'est fini ça. La stratégie s'est orientée vers une captation permanente et massive de données. L'objectif n'était plus seulement d'écouter, mais de modéliser.
Modéliser l'adversaire.
À tel point que les services israéliens auraient fini par affirmer, selon les sources citées, qu'ils connaissaient Téhéran, je cite, « comme Jérusalem ».
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on parvient à connaître une capitale ennemie tentaculaire avec une telle intimité? En parcourant les articles, l'une des révélations qui saute aux yeux concerne le système des caméras de circulation de Téhéran.
Le grand piratage.
Il y a eu un piratage massif, mais il ne faut pas voir ça comme un simple agent de sécurité qui regarde des écrans de contrôle dans une salle sombre. C'est la transformation d'une ville entière en un capteur géant.
C'est exactement le terme. un capteur.
Chaque trajet en voiture, chaque arrêt à un feu rouge, chaque déplacement dans la rue devient une donnée exploitable.
Ce qui est fascinant ici, c'est la mutation de la nature même du renseignement. Parce qu'accumuler des pétaoctets vidéo de caméras de surveillance en soi, ça sert strictement à rien si on n'a pas la puissance de calcul pour les analyser.
C'est chercher une aiguille dans une botte de foin infinie.
Exactement. Et c'est là qu'interviennent l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la Social Network Analysis, l'analyse des réseaux sociaux.
Alors, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, quand on parle d'analyse des réseaux sociaux dans ce contexte très militaire, on ne parle pas de regarder qui a liké une photo sur Facebook ou Instagram.
Ah non, pas du tout. On est très loin de ça. Il s'agit de cartographier mathématiquement les métadonnées des interactions via des messageries chiffrées, des applications comme WhatsApp ou Telegram.
Donc, même s'ils ne peuvent pas lire le message...
C'est ça. Même si le contenu du message est totalement illisible car chiffré de bout en bout, l'algorithme sait que le téléphone A a communiqué avec le téléphone B à telle heure précise, depuis tel endroit géographique précis.
C'est la métadonnée qui parle.
L'objectif, c'est de comprendre l'architecture invisible du pouvoir. Qui rencontre qui, à quelle fréquence, juste après quel événement spécifique.
C'est vertigineux quand on y pense.
C'est de la pure géométrie sociale. En croisant ces milliards d'interactions numériques, anonymes, avec les images des caméras de la ville piratées, les algorithmes parviennent à reconstituer ce que les services de renseignement appellent les schémas de vie.
Les fameux « patterns of life ».
Voilà. Ils identifient les habitudes de sécurité, les itinéraires récurrents, les changements soudains de routine, les cercles de confiance très restreints.
Ça permet de voir au-delà de la façade officielle.
Absolument. Ça permet d'identifier les véritables centres de pouvoir et les décideurs de l'ombre, ceux qui opèrent souvent bien au-delà des organigrammes officiels ou des titres un peu pompeux.
Et c'est précisément cette accumulation chirurgicale de données sur des décennies entières qui a permis une exécution d'une précision aussi glaçante.
La mécanique de la frappe est incroyable de ce point de vue.
Oui, les détails sont révélateurs. Malgré toute cette technologie embarquée, l'algorithme seul ne suffit pas à appuyer sur le bouton rouge. Il aura fallu, au final, une source humaine de la CIA sur le terrain.
Le facteur humain reste la clé.
Pour obtenir la double confirmation visuelle indispensable de la présence d'Ali Khamenei, c'est vraiment le filet de sécurité ultime pour éviter l'erreur fatale de détruire un bâtiment vide.
La combinaison de la high-tech et de l'humain reste indispensable, c'est indéniable.
Tout à fait. Et la chronologie de l'opération montre une agilité terrifiante. Le plan initial prévoyait une frappe nocturne, ce qui est, disons, le standard pour ce genre de manœuvre d'infiltration.
C'est plus discret, oui.
Mais l'opportunité a dicté un changement brutal. L'opération a été avancée aux aurores, vers 6h du matin. Et à 9h40 heure locale, l'ordre définitif est donné. Les missiles frappent.
Des missiles très spécifiques, d'ailleurs.
Attention, on ne parle pas d'un tir de petit drone de proximité. Il s'agissait de missiles de type Sparrow, tirés à plus de 1000 km de distance, avec une précision métrique. Une opération d'une telle envergure a d'ailleurs été validée au plus haut niveau, par le président américain Trump.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il est clair que nous assistons à une révolution pure et simple dans l'art de la guerre.
Comment ça ?
Les batailles d'hier, celles du XXe siècle disons, se gagner par la masse, le nombre de chars, le nombre de bataillons d'infanterie, la supériorité aérienne globale. La guerre moderne, elle, se gagne par le traitement asymétrique de l'information.
La donnée est la nouvelle munition.
C'est l'ère de ce qu'on appelle la décapitation stratégique. Auparavant, éliminer la tête d'un État hostile nécessitait une invasion terrestre massive, des mois de bombardement, ou alors l'organisation d'un coup d'État ultra complexe de l'intérieur.
Avec tous les risques que ça comporte.
Voilà. Aujourd'hui, une équation combinant des données de masse aspirées sur des années, des algorithmes d'analyse prédictive et une frappe balistique chirurgicale, bah ça suffit.
C'est d'une efficacité redoutable.
Mais cela soulève une question géopolitique primordiale. Une ligne rouge implicite vient d'être franchie dans les relations internationales. La normalisation de l'assassinat ciblé, totalement assumé, d'un chef d'État en exercice.
Ça change toutes les règles du jeu diplomatique.
Ça risque de plonger la stabilité internationale dans une zone d'ombre très dangereuse. La conséquence logique pour tous les régimes autoritaires à travers le monde, ça sera très probablement une bunkérisation extrême de leurs dirigeants.
Une déconnexion totale des réseaux numériques pour survivre.
Exactement.
Cette hyper-technologisation de la guerre a d'ailleurs un corollaire direct et immédiat. L'impact psychologique massif sur les populations. Dans les jours qui ont suivi la frappe de la rue Lemaire Pasteur, en observant les réseaux sociaux de X à Telegram, on assistait à un véritable incendie numérique.
Ah, la machine à rumeurs s'est emballée.
On a vu circuler des rumeurs totalement hallucinantes, dignes d'une série d'anticipations. Il a été question de montres connectées piratées pour géolocaliser les cibles.
Oui, classique.
Mais plus incroyable encore, de chapelets électroniques. Les chapelets utilisés pour la prière qui auraient été soit piégés avec des explosifs microscopiques, soit modifiés pour collecter secrètement les données biométriques et le rythme cardiaque des dirigeants iraniens.
C'est fou. Mais cette paranoïa collective est extrêmement révélatrice du climat actuel. Elle ne sort pas de nulle part, en fait.
Il y a un précédent.
Absolument. Elle est l'héritage psychologique direct d'une affaire bien récente, celle des beepers piégés du Hezbollah au Liban.
Bien sûr.
Cet événement a traumatisé la région. Ça a prouvé au monde entier que la manipulation physique des chaînes d'approvisionnement technologique, même pour des objets du quotidien banal, c'était techniquement possible. La guerre de l'information se joue autant dans les esprits que sur le terrain.
C'est de la guerre psychologique pure et dure.
Exactement. Pour un service de renseignement offensif, laisser courir, voire amplifier ce genre de rumeurs extravagantes sur des chapelets biométriques, c'est une tactique redoutable.
Pourquoi ?
C'est le principe du brouillard de guerre numérique. Plus l'ennemi est persuadé que l'infiltration est littéralement partout, jusque dans l'objet religieux qu'il tient dans la paume de sa main, moins il sait où la faille de sécurité se trouve réellement.
Il s'épuise à chercher des fantômes ?
L'imaginaire populaire, nourri par la terreur, vient combler les zones d'ombre d'une opération militaire très sophistiquée avec des récits de science-fiction.
Il est d'ailleurs primordial de faire une petite pause analytique ici. La source que nous dit SECOM, le magazine Lodi iWeek, prend le soin d'insister lourdement sur un principe de précaution.
Oui, c'est crucial de le rappeler.
Ces éléments fascinants sur les chapelets électroniques et l'hyper-infiltration biométrique relèvent pour l'instant de l'investigation journalistique en cours. Ce sont des rumeurs virales de l'espace numérique et, parfois, de pures spéculations alimentées par la panique.
Il n'y a, à ce stade, aucune confirmation officielle de ces méthodes spécifiques.
Face à cette guerre de l'information permanente, il est d'une nécessité absolue de garder une prudence intellectuelle face à chaque nouvelle révélation.
C'est un point de méthode essentiel. L'analyse rigoureuse exige de séparer les faits militaires et géopolitiques avérés de la mythologie romanesque qui entoure inévitablement le monde du renseignement.
Tout à fait.
Cependant, ce qui est malheureusement très réel, palpable et chiffré, c'est l'embrasement immédiat de la région à la suite de cette frappe.
Oui, les chiffres rapportés par le dossier sont lourds. Ils témoignent d'une escalade foudroyante. Quand on observe le bilan au 7e jour du conflit ouvert, on parle de plus de 1300 morts au total dans la région.
C'est énorme en si peu de temps.
En Iran, on dénombre 1190 morts. Et le détail est important, précisément 435 militaires et 436 civils formellement identifiés à ce stade, avec plus de 1000 cibles stratégiques ou infrastructures frappées par les forces américaines. L'intensité est inouïe.
Et ça ne s'arrête pas aux frontières iraniennes.
Du côté d'Israël, on recense 12 morts et plus de 1400 blessés suite aux salves de riposte par tir de missiles et de drones. Et le Liban, souvent pris en étau, n'est absolument pas épargné. On compte 77 morts et déjà plus de 80 000 déplacés internes.
80 000 déplacés fuyant les frappes visant les infrastructures du Hezbollah, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth.
Alors face à ce champ de ruines et au vide au sommet de l'État iranien, que disent les analystes sur la suite ?
La situation est d'une grande volatilité. Les analystes géopolitiques mettent en évidence trois scénarios distincts pour la période post-Khamenei.
Quel est le premier ?
Le premier scénario, qui est le plus répressif, ce serait une consolidation pure et dure du pouvoir autour du noyau dur des gardiens de la Révolution. Cela signifierait une militarisation encore plus extrême du régime et une fermeture totale de la société civile.
Et le deuxième ?
Le deuxième scénario envisage une transition contrôlée, orchestrée par les institutions religieuses restantes, vers la nomination d'un nouveau guide suprême de consensus, juste pour maintenir le statu quo.
D'accord. Et le dernier, j'imagine que c'est le plus chaotique.
C'est le plus redouté par les chancelleries internationales, car le plus instable. C'est celui d'une fragmentation interne du pouvoir. Une lutte ouverte et violente entre différentes factions sécuritaires et politiques.
Une guerre civile, en somme.
Qui pourrait entraîner l'Iran dans un chaos total et avoir des répercussions sismiques et imprévisibles sur l'ensemble du Moyen-Orient.
La tension est vraiment palpable. Mais si l'on change un peu de focale, il est très intéressant d'utiliser ce prisme de l'infrastructure et de l'organisation pour observer d'autres réalités.
C'est la transition parfaite.
Pendant que la scène internationale est suspendue à ces bouleversements destructeurs, il est essentiel d'analyser comment une nation utilise ces mêmes outils d'organisation, non pas pour faire la guerre, mais pour gérer ses propres crises internes, réparer et préparer son avenir.
Exactement.
C'est ce qui nous amène au Maroc, où l'approche détaillée dans le magazine est celle de la résilience et du pragmatisme d'État. Le contexte récent est marqué par d'importantes inondations qui ont frappé le nord et l'ouest du pays, causant des dégâts matériels très significatifs aux populations.
Face à des catastrophes climatiques qui deviennent malheureusement de plus en plus fréquentes, la réactivité logistique et financière de l'État devient le véritable test de la solidité d'un pays.
La réponse doit être immédiate.
Et la réponse gouvernementale, telle qu'elle est détaillée dans nos sources, montre une structure particulièrement intéressante. Fouzil Hedja, le ministre délégué chargé du budget, a annoncé depuis Rabat un plan de soutien direct.
Comment ça s'articule concrètement ?
Ce n'est pas qu'une simple enveloppe globale floue. C'est un déploiement financier rapide, agissant à plusieurs niveaux très précis et ciblant exactement 15 000 familles sinistrées.
Le ciblage lui-même montre une vraie maîtrise de la donnée de terrain.
C'est là que l'on voit la mécanique de l'aide publique moderne se mettre en place. Il y a un échelonnage intelligent. D'abord, il y a la réponse à l'urgence absolue.
L'aide de première nécessité.
Une aide financière exceptionnelle de 6 000 dirhams est allouée rapidement à chacune de ces 15 000 familles pour parer au plus pressé. Se reloger temporairement, racheter l'essentiel.
C'est vital dans les premiers jours. Ensuite, on passe à la phase structurelle, celle de la reconstruction. Les ménages dont les habitations ont été endommagées recevront une tranche supplémentaire de 15 000 dirhams pour financer spécifiquement les travaux de réhabilitation de leur logement.
Mais le point le plus révélateur de ce plan de crise, pour moi, c'est son volet économique.
Ah oui, l'aide aux commerçants.
Les petits commerces, qui sont les véritables poumons de ces zones souvent rurales ou périurbaines, bénéficient également d'une enveloppe de 15 000 dirhams.
C'est intelligent.
C'est une philosophie de gestion de crise très aboutie. L'État comprend que réparer les murs d'une maison ne sert à rien si, au coin de la rue, l'épicerie, le menuisier ou le petit artisan a fait faillite à cause de la boue.
Il faut relancer l'écosystème entier.
Il faut impérativement sauver les moyens de subsistance locaux pour éviter un exode rural massif et assurer une véritable relance du territoire. C'est de l'ingénierie sociale par le budget.
Et cette volonté d'organisation et de lisibilité se retrouve également de manière très frappante dans le calendrier politique de la nation.
Oui. La projection vers l'avenir.
Au beau milieu d'un climat mondial marqué par l'incertitude la plus totale, le Maroc prépare ses échéances démocratiques avec une avance et une clarté remarquables. Mustapha Beytas, le porte-parole du gouvernement, a d'ores et déjà annoncé officiellement la date des prochaines élections législatives.
Et c'est fixé à quand, juste ?
Elles sont fixées au mercredi 23 septembre 2026. Parallèlement, dans la sphère du patronat, le lancement officiel des candidatures pour la présidence de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la fameuse CGM, pour le mandat 2026-2029, a également été acté.
Il ne faut vraiment pas sous-estimer ce genre d'annonce. Fixer une date d'élection nationale majeure des mois, voire plus d'un an à l'avance, ce n'est pas un simple détail de secrétariat administratif.
C'est un signal.
C'est un message politique très fort, adressé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans un monde dominé par le chaos, l'imprévu et l'instabilité institutionnelle, le Moyen-Orient en est la preuve tragique aujourd'hui, annoncer un calendrier électoral ferme démontre une confiance en soi.
Une volonté assumée de stabilité.
Ça donne un horizon temporel clair, ça permet aux citoyens de s'y préparer mentalement, et surtout ça offre le luxe du temps aux partis politiques. Pour structurer sereinement leurs programmes, organiser les débats de fond et forger leurs alliances, loin de la précipitation qui nuit souvent à la démocratie.
La lecture de ce numéro de l'ODJ Week est décidément pleine de rebondissements. Car au-delà des crises géopolitiques et climatiques, le magazine réserve un florilège d'informations surprenantes, vraiment à la croisée de l'innovation technologique et du paradoxe culturel.
On change de registre là.
Totalement. Commençons par une donnée très inattendue dans le domaine de la santé mondiale. Le Maroc vient d'être classé à la toute première place mondiale dans le World Immunity Index 2026.
Premier mondial, c'est impressionnant.
Il s'agit d'un indice international qui évalue et cartographie la résilience et la force des systèmes immunitaires à travers le monde en se basant sur de multiples facteurs comme l'environnement naturel, l'alimentation et les habitudes de vie.
L'hygiène de vie locale paie ?
C'est une distinction qui en dit long sur l'impact de la diététique et des modes de vie sur la santé publique globale.
C'est un constat sociétal très positif qui mérite d'être souligné. Le lien entre le mode de vie traditionnel et la résistance biologique est ici quantifié.
Mais ça ne s'arrête pas à la tradition.
Non. Ce qui est captivant, c'est que cet ancrage dans des habitudes de vie saines s'accompagne simultanément d'une effervescence technologique de pointe sur l'ensemble du territoire. Le dossier met en lumière plusieurs avancées majeures. Par exemple, l'installation très récente de la chirurgie robotique d'Encorade à Tanger.
Ce n'est pas qu'un simple gadget médical pour faire bien.
Ah non, c'est une prouesse qui annonce une décentralisation vitale des soins de très haute précision. C'est évite aux patients de devoir systématiquement converger vers la capitale ou l'étranger pour des opérations chirurgicales complexes.
Le niveau d'équipement monte en flash. Et on le sait, cette modernisation nécessite une colonne vertébrale numérique totalement infaillible. C'est d'ailleurs ce que souligne l'article sur la révolution de la connectivité porté par Orange Maroc.
Avec leurs nouvelles offres ?
Oui, le lancement combiné de la technologie YoMax 5G et de la Livebox 7. On parle de fournir les véritables autoroutes de l'information nécessaires pour soutenir justement des innovations comme la télémédecine ou l'économie numérique.
L'infrastructure est la condition sine qua non du développement. Et cette adoption technologique donne parfois lieu à des initiatives culturellement fascinantes.
Tu penses au hackathon Adi ?
Exactement. Le lancement d'un hackathon Ramadan IA en est l'illustration parfaite. Déployé dans 12 régions du Royaume sous le thème très évocateur de « Ramadan outside of the box », cet événement vise à croiser l'intelligence artificielle et le mois sacré.
C'est un mélange audacieux.
On peut très bien imaginer comment les algorithmes pourraient être utilisés pour optimiser la logistique de la distribution alimentaire caritative, gérer les flux de circulation nocturne spécifiques à cette période, ou même innover dans la gestion de l'énergie. C'est la tradition qui embrasse l'hypermodernité.
Sortir du cadre, c'est exactement la promesse de l'IA. D'ailleurs, en parlant de choses qui défient parfois la logique, la rubrique météorologique de cette édition nous offre un paradoxe absolu, presque comique.
Ah, la météo, toujours imprévisible.
D'un côté de la page, les météorologues annoncent très fièrement que le fameux et puissant anticyclone des Azores s'installe fermement, promettant au bas mot 10 jours de stabilité météo parfaite et de ciel dégagé sur l'ensemble du Maroc.
Le beau temps garanti.
Et littéralement dans la colonne d'à côté, un autre bulletin d'alerte avertit solennellement que de fortes pluies et d'abondantes chutes de neige maintiennent le temps dans une grande instabilité sur certaines régions.
C'est l'ironie délicieuse des prévisions et des modélisations algorithmiques face au monde physique.
La réalité a le dernier mot.
On est capable, comme on l'a vu au début de notre analyse, de modéliser les réseaux sociaux clandestins d'un État entier. On peut développer des intelligences artificielles sophistiquées lors de hackathons nationaux. On peut opérer un patient avec des bras robotiques.
Mais la nature fait ce qu'elle veut.
Voilà. Avec ses microclimats, rebelles et ses caprices atmosphériques, elle refuse obstinément de se laisser totalement mettre en équation. L'anticyclone est là, mais la neige tombe quand même.
C'est un magnifique rappel à l'humilité scientifique. Même avec la meilleure IA du monde tournant sur les serveurs les plus puissants, le ciel garde jalousement sa part de mystère. Alors, pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, qui nous a fait voyager du sommet de l'État iranien jusqu'aux hôpitaux de Tanger, comment pourrait-on synthétiser la grande leçon de ce numéro ?
L'essence de cette analyse croisée tient en un constat implacable. L'information, l'infrastructure, et la donnée sont devenues le système nerveux central de notre monde.
C'est le fil rouge de tout ce qu'on a vu.
Au Moyen-Orient, ces éléments ont été transformés en de nouveaux nerfs de la guerre, d'une létalité terrifiante, capables de cartographier une ville pour orchestrer la chute d'un régime avec des frappes de précision à plus de 1000 km de distance.
La donnée comme arme de destruction.
Mais si l'on regarde de l'autre côté du prisme, au Maroc, ces mêmes concepts d'organisation de l'information et de logistique sont les outils vitaux de la résilience et du développement au quotidien.
La donnée comme outil de construction, cette fois.
Exactement. C'est grâce à cette maîtrise de la donnée qu'un État peut déployer une aide financière millimétrée et salvatrice à 15 000 familles sinistrées par des inondations, équiper ces régions de technologies médicales de pointe ou planifier avec des années d'avance la logistique complexe d'élections nationales. La technologie et la donnée sont par nature neutres.
C'est l'usage qui compte.
C'est l'intention politique et l'usage qu'en font les nations qui déterminent si elles servent à détruire des sociétés ou à les consolider.
C'est une conclusion très juste. Alors, que retenir de tout cela en fermant ce dossier ? Cela amène une ultime réflexion, assez vertigineuse pour ceux qui aiment creuser ces sujets.
Je t'écoute.
Il est fascinant de constater que si une simple métropole urbaine peut être retournée et transformée en arme redoutable contre ses propres dirigeants, simplement en piratant le flux de données de ses caméras de circulation, la notion même de frontière perd son sens traditionnel.
La géographie classique est dépassée.
Pour l'esprit curieux qui analyse ces évolutions, on étendra de se demander comment la souveraineté d'une nation sera définie dans la prochaine décennie.
C'est la grande question de demain.
Les futures frontières d'un pays seront-elles encore tracées par le cours des fleuves et la ligne des montagnes sur des cartes géographiques physiques, ou seront-elles désormais définies par l'imperméabilité de ses serveurs informatiques, la résilience de son infrastructure télécom et la puissance mathématique de ses algorithmes de chiffrement ? Le territoire n'est plus seulement physique, il est numérique.
Une vraie réflexion sur l'avenir des nations.
Il est essentiel de remercier tous ceux qui ont suivi cette analyse approfondie d'une actualité particulièrement complexe. Face à l'avalanche quotidienne d'informations et aux rumeurs de l'ère numérique, il est plus que jamais vital de conserver un esprit critique aiguisé et une curiosité toujours en éveil. À très bientôt pour une prochaine exploration au cœur des enjeux qui façonnent notre époque.